Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
On a parlé, Germain, de la Civic en première partie d'émission. Et évidemment, on aurait pu parler aux gens d'Honda Canada pour qu'ils nous vendent cette nouvelle Civic-là. Mais moi, j'avais un peu plus envie d'aller chercher le pouls du marché. Parce que la Civic, c'est une voiture qui a énormément d'histoire, qui a grandi, qui a vieilli, qui a évolué avec le cœur des gens.
Et notre interlocuteur a lui-même grandi avec la Civic.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on est avec Sébastien Brassard, président de Honda Terrebonne. Salut, Sébastien.
Bonjour.
Bonjour, messieurs, ça va bien?
Ben oui, absolument, merci. Alors, d'abord, peut-être nous expliquer ta petite histoire, parce qu'évidemment, Honda Terrebonne, c'est une affaire de famille dans laquelle tu as grandi, là.
Exactement. Mon père, en 1987, il a fait l'acquisition de la concession. En fait, donc, il a parti Honda Terrebonne sur le chemin Gascon. Donc, notre histoire de Simon et moi, là, mon frère, a commencé à ce moment-là, de côtoyer les produits Honda vraiment là, au quotidien.
Puis moi, il faut que j'explique aux gens qu'on a étudié ensemble à la même école. Moi, je vous ai vu rouler dans les années 90 avec des Civic de cette époque-là. Et vous avez évolué, évidemment...
au sein de l'entreprise.
Au sein de l'entreprise, tout comme la Honda Civic, là, finalement.
Oui, exactement. Toi, tu m'as connu quand j'ai commencé avec ma Civic 92 CX, pas de power steering.
Pas de rétroviseur passager avec des jantes d'acier de 13 pouces, avec une radio AM que tu avais pris en option. Je sais pas que tu écoutais d'ailleurs au AM en 1995.
Effectivement, c'est une option douteuse. Heureusement, la Civic est un peu plus équipée aujourd'hui.
Oui, c'est ça, exactement. Puis évidemment, ben la Civic, là, tu le vois, tu es rendu président de Honda Terrebonne. Un président dans un concessionnaire, ça fait sa job de président et toute autre tâche connexe. Ouais. Alors, tu mets ton nez un peu partout dans chaque sphère d'activité. La Civic pour Honda au Québec, ça représente quoi, si tu pouvais me le décrire?
C'est vraiment un de nos véhicules forts. Là. Ça fait partie de une des majorités de pourcentage de vente qu'on fait à chaque année. Là. Donc, c'est un de nos véhicules qui est très, très, très important. Puis, on a une clientèle qui est excessivement fidèle sur ce véhicule-là depuis de nombreuses années. Fait qu'on est, tu sais, super content qu'Honda nous annonce là, qu'on a un modèle avec un changement. Puis, on pense que c'est très, très, très positif pour nous autres et pour notre clientèle.
Bien, tu nous as glissé un mot comme quoi la clientèle de la Civic était fidèle. Comment Honda a su peut-être évoluer ou grandir avec cette clientèle-là?
Bien, je peux donner un exemple. T'sais, souvent, on part avec des clients qui ont probablement acheté un véhicule d'occasion. Puis là, je recule vraiment v'là longtemps. Je vais prendre des exemples demandes proches de moi, des bons clients qu'on a, par exemple, qui ont commencé avec une Civic deux portes là, des années 90. Il était célibataire ou en couple, il était dans 18-20 ans.
La Civic était évidemment
La question ne dit pas s'ils sont devenus en couple à cause de la Civic deux portes, mais ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais il y a eu une évolution et, en fin de compte, ces gens-là ont eu des enfants. Donc, ils ont eu dû changer à s'acheter une Civic quatre portes. Et garder un véhicule dans la même gamme de véhicules. Par contre, là, on change, on s'en va vers un 4-portes. Et ces clients-là, on les a vus évoluer dans Honda. Il y en a qui ont décidé de garder des Civic, puis selon les besoins, il y en a qui ont décidé de changer de modèle. Exemple, à l'époque, augmenter vers un CRV pour avoir plus d'espace. Mais tout dépendant si le véhicule était un véhicule primaire ou secondaire au sein de cette famille-là.
Dirais-tu que la clientèle qui se procure des Civic est plus fidèle en moyenne à ce modèle-là que celle qui va se procurer des HRV, des CRV, des Accord, par exemple?
Je dirais pas ça parce qu'on a beaucoup de clients là, qui sont fidèles et qui gardent le même modèle pendant plusieurs années. Mais on s'entend que la Civic, c'était un de nos premiers véhicules avec l'Accord à l'époque puis la Prélude. Puis il y en a un qui a disparu, qui est la Prélude. Puis après ça, il y a eu le CRV qui est arrivé et les autres modèles qu'on connaît. Et donc, ça se peut que nos clients ils ont changé selon leurs besoins. L'acquisition d'un chalet ou X, Y, Z de raison, les besoins ont changé. Donc, la grosseur du véhicule a pu changer. Mais on a des clients qui ont commencé avec des Civic là, pour nous autres là, depuis 40 ans, qui se promènent encore en Civic aujourd'hui. Puis ce qu'on peut voir, c'est la Civic, elle a vraiment changé depuis des années. Puis il y a des années où ce qui est devenu un petit peu plus un petit peu plus luxueuse versus sportive. Fait que
ouais.
Je parle plus l'année 2001, là, quand il y a eu ce changement-là.
Ouais.
Mais après ça, oups, 2006, ça en vient un petit peu plus sportive. Les clients ont bougé là-dedans. Puis ils ont accepté qu'Honda prenait des décisions. Mais il y a vraiment eu des changements obligatoires. Augmentation de poids due à la sécurité. Fait que, tu sais, il y a plusieurs changements qui ont été dictés par, je pense, pas juste le marché, mais par les obligations du manufacturier.
Bon, évidemment, la Civic, il y a eu des générations peut-être un peu plus mémorables que d'autres. La génération 88-91, je pense que c'est un incontournable. Puis en revanche, peut-être que la génération, justement, 2001-2005, c'est peut-être celle qu'on veut un peu moins se souvenir.
Ou qui a moins soulevé les passions, tout simplement.
On a perdu un peu cette espèce on a perdu avec cette génération-là cette espèce de flamme-là qu'on avait pour la Honda Civic parce qu'elle s'était un peu américanisée, parce qu'elle avait vieilli avec la clientèle. Mais on s'est rattrapé en 2006 avec une voiture qui était bien audacieuse. Où tu positionnerais la Civic aujourd'hui?
Je pense qu'Honda, on fait, surtout avec l'année 2016, quand ils ont essayé de sortir le véhicule, ils sont allés vraiment chercher des véhicules plus haut de gamme, dans des marques haut de gamme, pour aller essayer de créer un nouveau véhicule. Fait que, tu sais, si je prends des exemples de pièces de suspension qui proviennent beaucoup de véhicules allemands,
ouais.
Ça a vraiment rehaussé la catégorie de la Civic. Puis moi, puis Simon, on est très fiers. Là. On se promène dans des Civic régulièrement, puis à chaque fois, on est quand même surpris par la rigidité du véhicule au quotidien. Puis ça, même si on parlait d'un véhicule qui était entrée de gamme, moins équipé, à l'entour de 17-18 000 $, qui était notre première, était quand même bien conçu. Fait qu'on pense qu'on a augmenté un petit peu la barre à ce niveau-là, en essayant de garder un prix un prix quand même convenable pour les gens.
Bon, évidemment, la Civic est arrivée à l'automne 2015, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a pas évolué en 7 ans. C'est encore la même voiture que vous avez pour l'année modèle 2021. Donc, évidemment, j'imagine que pour vous, c'est pas évident là, d'avoir eu à garder un modèle inchangé aussi longtemps, surtout dans l'optique où vous renouvelez vos clients à la location au bout de 3-4 ans, là.
Et qu'on voit les véhicules concurrents, par exemple chez les Coréens, évoluer beaucoup plus rapidement. Là.
Ouais.
Exactement. Je trouve que vous avez vraiment raison. Puis pour nous autres, on aime ça avoir du changement. T'sais, les clients, quand ils changent de modèle, ils aiment ça avoir quelque chose de nouveau. Je compare ça un petit peu avec un téléphone cellulaire. Tu ne changeras pas ton téléphone cellulaire pour la même chose si le tien fonctionne bien. Mais tu vas changer pour le nouveau modèle. On sait, par contre, qu'en 2020, ça a été une année assez...
Je veux juste te mentionner, par contre, Sébastien, qu'un cellulaire, c'est un peu moins cher qu'une auto. Mais la comparaison tient quand même.
Mais souvent, tu vas avoir des plans de financement sur 2 ans.
C'est ça.
Donc... je suis d'accord avec vous autres. Mais l'année 2020 a été quand même remplie de défis pour plusieurs manufacturiers.
Ah,
pour
ben oui.
Ça, ça a été toute une année. Là. Ils ont reporté, selon moi, l'entrée de la Civic... de quelques mois. Fait que, on va l'avoir à peu près 8 mois après la date prévue qui était supposée d'être à l'automne dernier.
C'est clair, dans le fond, que la Civic, je le disais en première partie d'émission, c'est clair que la Civic 2022 devait être lancée pour le millésime 2021 puis qu'on a retardé ça d'un an. Là. Ça, c'est évident.
Ben, exactement, mais ça aurait dû sortir à l'automne. On aurait dû, grosso modo, l'avoir à l'automne ou durant l'année passée.
C'est ça.
Sans pas rentrer. Honda, habituellement, quand ils sortent un véhicule, c'est un véhicule qui est abouti, tu sais, qui est prêt à sortir.
Oui.
Ils n'avanceront pas en disant, ben, c'est pas grave, on va faire plusieurs mises à niveau dessus, non, ils sortent, il est prêt, il va bien. Fait que, mais on est content.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ton voisin qui vend des Ford, lui, c'est peut-être
un peu différent.
Il regarde par la fenêtre, puis il regarde son voisin, puis il se dit, là-bas, c'est comme ça que ça se passe.
Ouais.
Mais bref.
Parce que quand l'Explorer est arrivé, par exemple, il y avait quelques détails à peaufiner.
On peut peut-être donner à Ford l'audace de sortir des véhicules, tu sais, qui sont technologiquement... impressionnant sur le coup, mais c'est vrai que dans certains cas, quand on arrive avec un modèle, des fois, il reste quelques boulons à visser, là, alors que chez Honda, ben c'est différent.
Puis, en tout cas, mais on a hâte d'avoir la nouvelle Civic. On sait qu'ils ont probablement travaillé très, très fort à essayer d'amener un véhicule qui va encore plaire à la clientèle, parce qu'il y a encore une place pour des berlines puis des véhicules de cette grosseur-là au Canada, là, vraiment, je pense qu'on a une belle clientèle qui vont vouloir continuer à acheter ces véhicules-là.
On sait que la Civic est souvent associée au plaisir de conduire. Bon, ça l'était peut-être un peu plus par le passé. Plaisir de conduire vient souvent avec la boîte manuelle. Est-ce que tu crois encore au marché et à la pertinence d'offrir une transmission manuelle pour une voiture, pour une berline compacte?
Bien, là, je vais vous amener un point, puis je pense que vous n'êtes pas pire là-dedans. Là. Je pense que s'il y a une boîte de manuelle qui est le fun à conduire, l'historique d'Honda fait que ça soit peu importe le modèle, sont le fun à conduire. Fait que, tu sais, déjà là, on part avec un méchant point positif chez Honda. Du côté de la clientèle, nous, quand ils rentrent en concession, la part des gens vont rentrer avec trois buts pour un véhicule manuel. Première chose, ils croient que c'est un véhicule qui est beaucoup moins dispendieux.
Deuxième chose, oui, encore, va, hein?
Il y en a beaucoup. Deuxième chose, c'est que c'est un véhicule qui est beaucoup plus économique en essence.
Ben, ça, c'est plus vrai.
Ben, c'est ça. Puis l'autre des choses, c'est que c'est beaucoup plus performant. Fait que, tu sais, on a notre job à faire, nous autres, ici, en faisant essayer nos véhicules, à montrer aux clients que les CVT de Honda, qui ont quand même été peaufinés pour être plus agréables à conduire que ce qu'on connaît d'une CVT conventionnelle, ce qu'on a connu dans le passé, et qui sont vraiment bonnes en économie d'essence, puis rendues au prix. Mais là, on fait la différence aux clients. Nous autres, on est dans une situation nord de Montréal, les gens sont pris dans le trafic. Fait qu'on a l'impression, on le sait que les clients vont avoir besoin de changer de vitesse régulièrement. Fait qu'il y a une question de confort à un moment donné, puis que les gens sont prêts peut-être à faire un petit changement pour ça.
Mais toi, je vais te poser la question différemment. On disait chez Honda que 14 % des Civic berlines au Québec vendues en 2020 étaient équipées de boîtes manuelles. C'était 6 % pour le marché canadien. Donc, on voit qu'au Québec, il y a peut-être un peu plus d'engouement que pour la moyenne des autres provinces.
Et même la Civic par rapport à d'autres modèles, 14 % c'est très élevé comme proportion, là.
Puis c'est élevé considérant le nombre de véhicules qu'on vend.
Ouais.
Mais si moi, je m'appelle Sébastien chez Honda de Terrebonne et qu'un client arrive avec une Civic à boîte manuelle à vous vendre en échange, par exemple, est-ce que tu es intéressé à la racheter ou beaucoup moins que si c'est une automatique? As-tu encore de la demande pour ça ou c'est une épine dans le pied pour toi? Parce que chez certains manufacturiers, il n'y a plus d'intérêt, puis il y en a d'autres où, oui, il y a encore une demande et justement, elles vont se revendre rapidement parce qu'il y en a de moins en moins.
On a tout le temps une demande pour ces véhicules-là. Puis, dans l'occasion, nous autres, on ne sera jamais freinés pour un véhicule qui est manuel. La popularité est pour un véhicule automatique. Les gens vont demander pour ça autant dans l'usager que dans le neuf.
C'est sûr.
Le pourcentage serait similaire pour l'occasion ou pour le neuf. On le sait qu'Honda, ça a tout le temps été populaire, les manuels chez Honda. Mais on le sait qu'il y a une partie de la clientèle qui vont quand même décider de changer parce qu'il n'y a pas d'offre non plus ailleurs pour du manuel ou il y en a de moins en moins.
Ouais. Donc, c'est un peu les manufacturiers qui forcent le marché à changer, là.
Ils forcent le marché un petit peu pour prendre une décision sur 14 %. Mais dans le 14 %, il y en a combien qui auraient vraiment changé, qui auraient vraiment pris peut-être une automatique rendue à ce moment-là? Il y en a quand même une certaine partie. Ceux qui croyaient vraiment que c'était plus économique, bien peut-être que les autres vont décider vraiment de changer pour l'automatique.
La Civic SI, elle, est demeurée sur le marché, bon, a évolué avec le temps. C'est une voiture qui s'est embourgeoisée, là, on ne se le cachera pas, c'est plus la petite voiture nerveuse qu'on connaissait avant. Il y a encore ce côté sportif intéressant, puis plus de performance, mais c'est une voiture qui est plus luxueuse qu'à une certaine époque, c'est bien clair. Mais c'est une stratégie, justement, très curieuse de Honda d'avoir conservé uniquement une boîte manuelle dans cette voiture-là, pas d'offre de boîte automatique, alors qu'on sait qu'on a une bonne transmission double embrayage du côté de l'Acura ILX, qui est sa proche cousine. Est-ce que tu penses que d'avoir offert une boîte double embrayage dans la Civic SI, ça aurait pu permettre d'augmenter de façon significative les ventes de la version SI?
Je ne sais pas si ça aurait augmenté vraiment les ventes, parce que nos clients qui achètent des SI, la plupart des gens veulent vraiment un modèle qui va être manuel. Puis ceux qui ne le veulent pas, on est capable de les transférer sur un modèle qui va être, par exemple, les hatchbacks qui vont être automatiques. Ou par contre, on peut se rendre aussi l'exemple dans nos véhicules touring qui sont sensiblement équivalents, qui sont automatiques.
Ouais.
Fait que les gens vont changer de modèle. Mais l'amateur des véhicules vraiment sportifs, il veut continuer à conduire manuel. Puis je pense pas qu'Honda, tu sais, il se barre vraiment à avoir une clientèle supplémentaire en n'offrant pas la, la double embrayage. Et le pire, c'est que je doute fort bien que l'Acura est vraiment le fun à conduire. Je ne l'ai pas essayé, ce modèle-là.
Ah, ça manque à ta culture, parce que cette transmission-là, honnêtement, c'est un secret qui, selon moi, est trop bien gardé chez Honda. C'est une boîte qui travaille de façon magnifique. Il n'y a pas trop de délai à l'accélération initiale. Ça répond vite. Puis je trouve que c'est extrêmement bien marié avec le moteur actuel de la ILX, mais qui est évidemment appelé à disparaître, là.
Exactement. On ne l'a pas mis avec le moteur turbo, mais je suis sûr que ça serait assez le fun à conduire.
On sait que Honda a tenté la technologie hybride par le passé avec la Civic à quelques reprises. Ça n'a pas toujours été des grands coups d'éclat. On sait qu'en 2022, bon, parlons pour la prochaine année, l'automobile électrifiée, c'est rendu une norme. Où vois-tu la Civic se positionner dans cet univers un peu plus vert, là?
Bien, moi, la première des choses que je prends en considération, c'est le fait que notre véhicule le plus populaire chez Honda, c'est une Civic LX CVT. Fait qu'en partant de ce moment-là, c'est que tu dis, bon, c'est un véhicule en entour de 25 000, 24 000. Pour te rendre avec un véhicule avec beaucoup plus de technologie, c'est sûr que le coût va augmenter. Fait est-ce que le coût mensuel va faire que le client va pouvoir aller vers ce véhicule-là? On a la Insight qu'Honda nous a amené. Pour moi, c'est une Civic là, qui est redessinée un petit peu avec... Mais c'est le même...
Il aurait pu l'appeler. On s'entend tout là-dessus. Il aurait pu appeler ça Civic hybride, puis voilà.
Et c'est pas comme si le nom Insight était très puissant, parce qu'on l'a essayé deux fois auparavant, puis là, c'était le troisième coup, et visiblement, c'est pas une grande réussite sur le plan commercial, l'Insight de troisième génération, là.
Donc, puis on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup en volume, mais à chaque fois qu'on en a, on les vend immédiatement.
Bien, c'est ça.
Les gens qui en ont, ils sont d'abord.
OK. C'est intéressant,
par exemple. C'est le point. C'est que moi, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de demande. J'ai juste l'impression que Honda n'est pas intéressé à en vendre. Puis je pense qu'on peut comprendre la stratégie. On fabrique une Civic chez nous au Canada qui est très rentable de vendre chez nous, alors que l'Insight fabriqué au Japon, il y a des coûts d'exportation qui sont gigantesques. Il y a des coûts de fabrication qui sont plus élevés. Donc, évidemment, les taux d'intérêt sont en conséquence, etc. Il n'y a pas d'intérêt de la part d'Honda de vendre cette voiture-là, à se demander même pourquoi on la propose.
Ouais.
Parce que c'est une Civic hybride qui, dans le fond, peut être très intéressante pour une certaine partie de la clientèle. Là.
Exactement. Est-ce que je me pose plein de questions par rapport à ça? Est-ce que c'est des véhicules qui rentrent ici, qu'on fait des tests avec les véhicules en Amérique du Nord? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que présentement, en prenant en considération la différence de coût, c'est pas tout le monde qui va vouloir payer la différence présentement. On le sait que dans le futur, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup de nos produits qui vont être intégrés avec un système similaire à la Insight et même amélioré, là, surtout. Et j'ai l'impression que les coûts vont commencer à diminuer et qu'on va pouvoir proposer ça et ça va être beaucoup plus accessible pour les gens et ils vont vouloir embarquer là-dedans.
Dirais-tu que c'est la même chose pour la Clarity au niveau de la demande? Est-ce que tu écoules tout ce que tu as puis tu es limité dans ton inventaire?
On est limité dans les commandes de Clarity. Et si j'en ai une en inventaire, elle sort dans les jours suivants, sinon je ferais des heures suivantes, parce qu'on a des clients qui attendent juste de l'avoir ou de l'essayer. Puis au moment où ils l'essayent, ben ils tombent sur le charme quand même de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui va super bien puis qui est bien adapté à quelqu'un qui va faire beaucoup de kilométrage puis qui veut pas se tracasser à être obligé de tout le temps planifier ses voyages d'avance.
Ben, c'est un excellent produit, c'est juste qu'il faut se fermer les yeux. Hein?
Elle est très belle quand tu es assis à bord.
Oui.
Ça aussi. Là.
Il faut juste aller plus loin que son look, mais malheureusement, c'est ça, elle n'est pas suffisamment considérée et beaucoup s'en moquent pour des raisons évidentes.
Mais encore là, je pense que c'est une voiture qui pourrait connaître beaucoup plus de succès si Honda en avait plus à offrir. Puis est-ce qu'il y a une question de volonté à ce niveau-là? Ben ça, c'est une autre affaire. Évidemment, Honda, on le sait, on fabrique au Canada la Civic, le CR-V. Ce sont les deux véhicules qu'on promouvoit le plus. Ce sont les deux véhicules qui sont les plus vendus chez nous. Et une stratégie intéressante chez Honda, Sébastien, c'est évidemment la stratégie de louer et d'être capable de reprendre une voiture avant terme et de renouveler très souvent son client. Est-ce que c'est une avenue qui est de plus en plus difficile considérant le marché de la voiture compacte à la baisse, ou est-ce que tu continues de voir un filon qui est très, très bien rodé, qui continue sa route de façon régulière?
Et nous autres, pour vrai, la location, c'est un de nos offres de financement qui, qui colle à la peau à une majorité de nos clients. C'est 55-60% de nos clients qui désirent avoir une location. Puis, on trouve ça, pour nous, on le trouve vraiment avantageux. On est capable de racheter 90% des véhicules qu'on loue à nos clients.
Tu veux dire avant terme, là?
Bien, incluant la fin du terme aussi. Fait que je veux aller, tu sais, sur un 48 mois, que ce soit de jusqu'à 48 mois, 90% des véhicules sont rachetés.
OK.
Et ce qu'on va décider de ne pas racheter, c'est un véhicule qui va avoir été accidenté pour des gros montants que nous, on ne veut pas revendre à notre clientèle. On n'est pas intéressé. Il y a d'autres compagnies que eux, ça leur dérange pas, ils vont leur vendre. Mais nous, on n'est pas intéressé de vendre ces véhicules.
Autrement dit, des véhicules qui ont des gros carproof, qui ont des historiques so-so ou qui sont plus ou moins bien entretenus, tu les laisses aller, ça se retrouve à l'encan, puis tu t'occupes pas de ça. Mais
sinon, la force de la Civic, c'est sa présence sur le marché d'occasion et le fait que sa demande soit très forte. Et toi, ben, ça t'incite à générer des Civic d'occasion, là.
Ben, exactement, puis... Tu sais, je veux pas juger ceux qui vont faire des financements sur des longs termes, mais on le sait que la vie change, puis qu'à l'occasion, tu peux te retrouver avec une petite surprise qui est super la fun, mais tu te retrouves avec des jumeaux, puis ton véhicule que tu as actuellement, ben, fait peut-être pas l'affaire, puis que si tu es en location sur 4 ans, puis qu'il t'en laisse 3 avec une Honda Civic, ben ton équité négative risque d'être contrôlable comparativement avec d'autres véhicules que tu as pris sur des très longs termes, que les valeurs de revente sont moins bonnes. Là, tu te retrouves avec des équités négatives qui chiffrent pas mal élevées. Là, tu vas être obligé de traîner ça pendant plusieurs années. Bien, nous autres, on a cette option-là. Honda sont agressifs là-dedans. On pense que c'est une des meilleures solutions pour notre clientèle. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a une bonne majorité de la population qu'on pense que c'est le moyen de financer un véhicule présentement.
J'étais en partie d'accord avec toi parce que c'est vrai que l'équité négative sur une Civic jusqu'à un terme de 48 mois, elle est très, très faible, en tout cas, s'il y en a une. Par contre, on voit beaucoup Honda promouvoir du 60 mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu pousses ou... parce que moi, je déconseille littéralement aux gens de louer
là,
sur un 60
là, hein?
mois parce que la différence entre un 48 et un 60 sur le paiement est souvent minime. Est-ce que vous poussez beaucoup le 60 ou est-ce que vous poussez davantage le 48?
Bien, le problème, il ne faut pas le regarder sur le terme en tant que tel. Il faut le regarder avec quoi le client le compare. Puis quand le client compare une location 60 mois, c'est parce qu'il va comparer dans d'autres marques un financement sur 96 mois. Puis à ce moment-là...
Ce qui n'a pas de bon sens retrouve, non plus, là.
Bien, c'est ça. Fait qu'on se retrouve que moi, mon client qui part sur sa location 60 mois, qu'habituellement, on va échanger, là, que ce soit au moment 60 mois ou un peu avant, ben, il se retrouve quand même pas avec sa Honda de faire des gros entretiens sur son véhicule qu'il n'aura pas besoin de faire. Puis quand je parle de gros entretiens, ça commence, je suis fin avec entretien parce que dans d'autres manufacturiers, on parle plus de 60 mois des entretiens, on parle de changement de pièces majeurs. Puis à ce moment-là, nous, on le fait pas. Fait que mon client, entre son 48 et son 60 mois, il n'a pas besoin d'encore d'investir des gros montants sur son véhicule. Puis c'est là que je me rends compte que les gens, quand on change de véhicule, ben il n'y a pas des grosses équités négatives. Tandis que si quelqu'un sur son 96 mois, il se retrouve avec une équité négative qui change au bout de 5 ans.
Ah, c'est sûr. Ah, puis ouais, ouais. À 96 mois, même dans ta 6e année, t'étais pas à équité égale, c'est clair. Là.
Et c'est à ce moment-là qu'on nous écrit par courriel et qu'on nous demande quoi faire avec cette situation embêtante. Et ben malheureusement, on peut pas faire grand-chose à part de dire de prendre notre mal en patience. Là.
Sébastien, exactement. Tu t'attends... Vas-y, excuse-moi.
Allez-y.
Ben, Sébastien, en terminant, je suis curieux de savoir à quoi tu t'attends de la nouvelle Civic. Elle va arriver quelque part au mois de juin. Est-ce que tu as des gens qui l'attendent? Est-ce que tu as beaucoup de dépôts sur cette auto-là? Ou est-ce que ça sera pour toi une évolution? Est-ce que après ça, de vendre des Civic 2021 restantes, ça va être difficile aussi? Comment tu vois ça, cette transition-là?
Bien, nous autres, en ce moment, on a déjà commencé à avoir quelques dépôts sur des Civic 2022. Il y en a qui ont très, très hâte de la conduire.
Ouais.
Le pire, c'est que c'est des clients qui ont déjà des véhicules Honda, puis ils n'ont pas le dernier modèle. Là. Ils ont des modèles des années 2006-2011 à peu près, puis là, okay. Ils ont hâte que la nouvelle Civic arrive. Pour nous, quand on parle de changement de modèle, c'est jamais un problème d'écouler le modèle restant, là, celui qui est il est encore beau, il est encore au goût du jour. Honda, ils ont des promotions assez intéressantes. Fait que, tu sais, on va les écouler. Puis ça, ça se passe tout le temps. Peu importe le modèle Honda qu'on change, on est tout le temps capable de les écouler, puis assez rapidement en plus. Fait que, tu sais, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on a hâte de l'avoir dans la salle de montre. Ça crée tout le temps un engouement. Puis les clients, quand ils rentrent, exemple, pour un entretien, puis qu'ils voient la nouvelle Civic, mais c'est sûr que ça crée quelque chose, puis ils ont le goût d'aller l'essayer, puis de voir si on est capable de changer de modèle.
Puis s'ils l'ont pas vu, je suis persuadé que tu vas t'en charger, tu vas t'occuper de leur montrer, ça, il n'y aura pas de problème. Parce que évidemment, un des avantages de la Civic, tu sais, actuellement, il y a un problème de disponibilité de véhicules dans l'industrie. C'est pas le cas pour la Civic, si je ne m'abuse, parce que c'est une auto qui est fabriquée chez nous. Bon, il peut y avoir des pénuries de pièces pour les fabriquer, mais actuellement, dirais-tu que vous manquez de Civic? J'imagine que non.
Alors, nous autres, on est encore bon pour encore quelques mois. Puis quand la nouvelle Civic va arriver, si on croit qu'ils sont capables de fabriquer à gros volume ici au Canada, on ne devrait pas en manquer. Là. Fait qu'on devrait être correct pour continuer le reste de l'année. On le sait qu'on risque d'être un petit peu plus serré vers la fin de l'année, mais on est quand même positif. Puis on va s'habituer. Si quelques clients doivent attendre quelques semaines avant d'avoir leur auto, ils vont comprendre, mais on pense pas que ça va être attendre des plusieurs mois pour obtenir un véhicule.
Sébastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, hâte de voir la Civic en chair et en métal, parce que
ça va ressembler
pas mal à ça.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Bonne journée. Merci.